Anissa.
Merci. Alors, je commencerai par un hommage admiratif qui ne va pas sans un embarras profond. Et j'enchaînerai sur un aveu provocateur, mais sincère, hélas, en ce qui concerne Anna Arendt, pour justifier du choix par élimination de mon objet. Ce genre de table ronde est toujours un peu gênant pour ceux qui participent, de peur que nous ne disions à peu près les mêmes choses. Et comme Laurent Bouvet est un spécialiste de philosophie politique et de politique, et que, évidemment, je craignais de dire des choses tout à fait pâles par rapport à Philippe Reynaud et à Pierre Manant, je me suis cantonnée à mon petit objet, étant antiquisante de formation. Je me propose essentiellement de réfléchir sur, enfin, de parler du rejet de la mort comme catégorie métaphysique et le choix de la naissance comme catégorie politique chez Anna Arendt. Pour montrer ce qui, à mes yeux, est le plus intéressant dans la lecture que Anna Arendt fait des anciens, de la philosophie ancienne, et dans la manière dont elle pense à nouveau frais la philosophie. Alors, hommage à la préface pour une raison très simple, qui est que la préface de Philippe Reynaud dit tout ce qu'il y a d'intéressant et d'important à savoir en première analyse sur les rapports d'Anna Arendt à la philosophie ancienne. Philippe Reynaud y montre que Anna Arendt dialogue d'une manière générale avec les grands auteurs et avec les œuvres majeures de la tradition, ce qui rend quelquefois son texte un petit peu difficile, non pas parce que ce serait un texte techniquement philosophique, j'y reviendrai, mais parce qu'il suppose connu ou il suppose lu un certain nombre d'auteurs que tout le monde n'a pas forcément lu. Deuxièmement, un hommage en ce qui concerne plus particulièrement la manière dont Philippe Reynaud explique comment Anna Arendt s'oppose essentiellement à Platon dans la philosophie ancienne et retourne contre l'héritage platonicien les catégories centrales qu'elle élabore dans ce qui a gardé le titre de « Conditions de l'homme moderne ». Hommage enfin à la façon dont la corrélation entre philosophie et histoire de la philosophie chez Anna Arendt est soulignée, et je me réfère ici non plus à la préface générale, mais à l'introduction au premier des textes réédités dans ce volume quarto, c'est-à-dire la condition de l'homme moderne, dans laquelle Philippe Reynaud fait remarquer que le charme singulier qui s'exerce ici tient à, dit-il, cet équilibre idéal entre l'acuité du regard porté sur la société contemporaine et la richesse des interprétations des auteurs étudiés. Si discutable que soient certaines de ses thèses, Arendt est toujours solidement informée des sujets qu'elle aborde et elle s'oriente avec la plus grande virtuosité dans les discussions de son temps. Elle a lu en philosophe les grands auteurs grecs et romains, mais elle n'ignore pas non plus les travaux les plus récents sur l'histoire antique, et Philippe Reynaud montre qu'en effet, elle cite Jean-Pierre Vernant, des tas de choses tout à fait contemporaines. Donc, en fait, pour un lecteur, tout est dit, et même magnifiquement dit dans ses pages d'avant-propos, et je ne vois pas du tout ce que je pourrais ajouter, encore moins objecter. Donc, je dirais que le public ici présent trouvera l'essentiel de ce qu'il pourrait désirer savoir sur la façon dont Arendt réfléchit à la République, aux politiques ou aux lois de Platon, ou encore sur la manière dont elle critique la façon dont chez Aristote la vie théorétique en vient à dévaloriser la vie politique, le bios politikos. Tout ça est dit. Alors, une fois qu'on a lu la préface de Philippe Reynaud, on sait tout ce qu'il y a à savoir en première analyse, et en seconde analyse, il suffit de lire les textes. Il n'y a plus qu'à lire. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi je pourrais intervenir. Alors, comme j'étais très embêtée pour savoir quoi dire d'autre que répéter ce qu'avait dit Philippe Reynaud, ou en donner une pâle copie, je me suis dit, je pourrais essayer de trouver un point précis et vous proposer un pinaillage ennuyeux comme les historiens de la philosophie en ont le secret, mais je n'allais pas vous ennuyer exprès. Donc peut-être dans la discussion on pourra revenir sur certains points. Il y a des textes quand même fort embarrassants d'Anna Arendt du point de vue de l'historien de la philosophie. Elle prend des textes extrêmement connus, les textes que tout le monde connaît, La Caverne, le grand thème selon lequel Aristote est important parce qu'il a expliqué que la vie théorétique était la meilleure forme de vie, la vie philosophique et le meilleur mode de vie parmi tous les modes de vie possibles. Mais on pourrait dire quand même que Hannah Arendt se trompe, et ça a l'air prétentieux de dire qu'elle se trompe, mais je veux dire que quand elle fait allusion aux grands textes de la tradition, elle ne les cite pas, ou très rarement, et en fait, elle se les approprie, de sorte qu'on pourrait montrer qu'il y a des choses quand même très bizarres dans sa critique de la République de Platon. Il suffit de regarder de façon acribique, c'est-à-dire souvent pas très intéressante philosophiquement, je vous l'accorde, mais il suffit de regarder de façon très précise les textes pour se dire que quand même c'est difficile de les interpréter comme elle le fait. Pour parler vulgairement, elle les interprète un peu à la louche, et l'historien de la philosophie n'est pas toujours très satisfait. Mais enfin, ça c'est des choses qu'on peut dire dans la discussion, pas pour commencer, ça serait vraiment réservé au happy few et assez pédant et au milieu. Donc qu'est-ce qui me restait à faire? Je me suis dit, rester la voie comparative, montrer ce qu'il y a d'original dans le traitement de la philosophie ancienne par Hannah Arendt, en la comparant à d'autres auteurs. Malheureusement, ça aussi s'est fait dans la préface, c'est-à-dire que Philippe Reynaud a très bien comparé la position d'Hannah Arendt à l'interprétation que Léo Strauss et Cornelius Castoriadis ont développée sur ce que fut la politique grecque, et donc je vous renvoie de nouveau à cette admirable préface. Il ne me restait plus qu'à faire une seule chose, c'est-à-dire, éventuellement pour apporter un petit quelque chose, un petit caillou, compléter de manière oblique ce qui avait déjà été fait ou déjà été dit, sans prendre néanmoins un chemin de traverse, et il m'a semblé que l'un des points les plus importants chez Hannah Arendt, c'était la façon dont elle rejetait une tradition métaphysique qu'elle connaît parfaitement bien, en mettant au cœur de sa réflexion la naissance plutôt que la mort. Et je rebondirai donc sur le passage du texte de Léo Strauss qui est cité et commenté par Philippe Reynaud dans sa préface générale, page 16, et qui est le suivant. Alors que selon... C'était un passage de la Renaissance du rationalisme politique classique de Léo Strauss. Alors que selon Platon et Aristote, être au sens le plus élevé veut dire toujours, Heidegger soutient qu'être au sens le plus élevé signifie exister, c'est-à-dire être au sens où un homme est. Être au sens le plus élevé est caractérisé par la mortalité. Et on peut mettre cette critique de la version heideggerienne d'un retour à l'ontologie fondamentale avec la célèbre distinction qu'opère Hannah Arendt dans la condition humaine au tout début entre éternité et immortalité et les conséquences qu'elle en tire à la fin du chapitre 1. Elle dit la chose suivante, je la cite. C'est pages 74 à 76 avec des coupures dans l'édition Quarto. Immortalité signifie durée, vie perpétuelle sur cette terre, en ce monde. Le devoir des mortels et leur grandeur possible réside dans leur capacité de produire des choses, œuvres, exploits et paroles qui mériteraient d'appartenir et au moins jusqu'à un certain point appartiennent à la durée sans fin. Un peu plus loin, à partir de Platon, la préoccupation de l'éternel, la vie philosophique, s'oppose foncièrement au désir d'immortalité, au mode de vie du citoyen, au bios politikos. Ce qui importe, c'est que l'expérience de l'éternel, par opposition à celle de l'immortalité, ne correspond et ne peut donner lieu à aucune activité. Donc ce qu'il y a de, à mon avis, très intéressant dans ce que fait Hannah Arendt ici, ça consiste à essayer de montrer que la tradition métaphysique se pose toujours par rapport à la mort, à la mortalité, que la philosophie, à partir de Platon, a ouvert une longue tradition pour laquelle philosopher pour l'essentiel, je vais y revenir plus précisément ensuite, c'est apprendre à mourir, et c'est ça qui éloigne les hommes de la valorisation de l'activité. Et du coup, elle met au cœur de sa réflexion au début de la condition de l'homme moderne, non pas la mort ou l'être pour la mort, mais le concept de naissance. Et ce concept de naissance, c'est peut-être un de ceux dont la paternité ou la maternité, je ne sais pas comment dire, revient à Hannah Arendt. C'est ce qui permet, d'après elle, de penser de manière non grecque un héritage grec. La naissance lui semble en effet au cœur d'une pensée de l'action, là où traditionnellement la méditation de la mort et l'aspiration à l'éternité étaient devenues l'affaire de la métaphysique. Naître plutôt que mourir ou s'immortaliser en visant l'éternité, c'est d'après elle la notion clé autour de laquelle on peut s'élaborer une réponse philosophique moderne et originale au platonisme et à tous ses avatars. Alors, un petit aveu quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on y reviendra. Hannah Arendt, comme il vient d'être rappelé par Philippe Reynaud et comme il le souligne là encore en ouverture de ce volume, se voulait écrivain politique ou critique de philosophie politique, alors qu'elle est souvent considérée comme une grande philosophe. Donc je dois avouer que je la prends personnellement plutôt pour ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire que je comprends souvent mal pourquoi elle passe auprès de beaucoup de nos contemporains, en particulier des jeunes générations, pour une grande philosophe ou pour un oracle. Je trouve la lecture d'Hannah Arendt tout à fait passionnante, mais il y a beaucoup de choses passionnantes qui ne sont pas de la philosophie. On peut lire beaucoup de livres passionnants qui ne sont pas à proprement parler philosophiques. Donc, ce qui me gêne beaucoup chez Hannah Arendt, c'est que je trouve que ce sont parfois des concepts mous. C'est pas assez conceptuel pour moi. Et si la philosophie, c'est inventer des concepts ou procéder par concepts, je trouve qu'Hannah Arendt est une demi-philosophe. Alors, du même coup, il y a quand même des concepts dont elle a la paternité ou la maternité. Le rôle que joue la naissance au début de la condition de l'homme moderne me semble vraiment quelque chose de passionnant par tout ce que ça ouvre dans la réflexion sur l'action. Et de même, on l'a souvent souligné, elle réfléchit à ce qu'est un événement, à l'événement d'une façon absolument originale et intéressante. Alors, quand même, dire qu'elle est une demi-philosophe semble bien prétentieux, et puis c'est peut-être un peu mesquin. Je dirais qu'elle est peut-être aux deux tiers philosophe, parce qu'il y a aussi un trait de la pensée d'Hannah Arendt qui est souligné dans la préface et qui me semble intéressant. C'est que Hannah Arendt, même si pour les grands textes classiques, offre des interprétations qui peuvent être discutées ou qui sont quelquefois un peu trop globalisantes, elle est en permanence en train de discuter avec la tradition, et ça, c'est ce qui rend sa lecture philosophique au sens de l'histoire de la philosophie, si on considère que la plupart des philosophes du XXe siècle partagent avec elle ce dialogue avec les auteurs de la tradition. Il y a donc quelque chose d'intéressant dans la manière dont elle lit les auteurs classiques et dont elle pense non pas à partir d'elle-même, mais toujours par rapport à ce qui a été pensé avant elle. Donc si penser philosophiquement au XXe siècle, chez finalement tous les auteurs, de Heidegger, Derrida, Ricoeur, d'autres, Foucault, qui vous voudrez, Castoriadis, si au XXe siècle, c'est ce qui rend la lecture de la philosophie difficile d'ailleurs, c'est un dialogue avec les philosophes antérieurs, il n'y a pas de doute que Hannah Arendt s'inscrit vraiment dans cette lignée de philosophes à part entière. Alors, je vais tâcher quand même de ne pas vous lasser, d'aller un peu plus vite. Donc la grande idée, à mon avis, par rapport à la philosophie ancienne, consiste à démarquer la philosophie moderne de la grande tradition selon laquelle philosopher, ce serait apprendre à mourir. Tout le monde connaît évidemment cette formule célèbre qu'on rapporte toujours à Platon. Et Hannah Arendt s'efforce de montrer, en effet, que c'est parce que les anciens ont privilégié la mort et l'apprentissage de la mort, qu'ils n'ont pas su penser l'action. Alors, elle prend distance, elle prend de la distance à l'égard des problématiques métaphysiques, ce qui implique pour elle un remaniement, c'est-à-dire la conscience d'une rupture. On le voit par exemple, on voit très bien la manière dont elle se positionne par rapport à la tradition antique, à la philosophie antique, lorsqu'elle réfléchit à la question de l'événement totalitaire. S'agissant de l'événement totalitaire qu'elle aborde dans tous les textes, peut-être le totalitarisme, mais aussi dans la crise de la culture, on peut retenir trois conséquences remarquables dans les rapports entre philosophie et politique. D'abord, elle explique cette formule, et je crois assez célèbre à cause du concept de brèche, elle écrit que lorsque le fil de la tradition se rompt, la brèche entre le passé et le futur cesse d'être une condition particulière à la seule activité de la pensée. Elle devient une réalité tangible et un problème pour tous, ce qui veut dire qu'elle devient un fait qui relève du politique. Fin de citation, c'est dans la crise de la culture. Pour elle, l'événement, ce qu'on appelle un événement, c'est quelque chose qui rompt la tradition, mais cette rupture de la tradition affecte les rapports entre pensée et politique, entre philosophie et politique. La rupture de la tradition et l'insuffisance de celle-ci en particulier telle qu'elle est méditée dans la crise de la culture par la triade Kierkegaard, Nietzsche et Marx, devienne patente, devienne l'affaire de tous. Donc il y a toujours un rapport de la politique à la philosophie, il y a des moments de rupture dans la continuité, ça ne reste jamais simplement des ruptures dans la pensée. Ce qui est une rupture de la pensée devient toujours, à un moment ou à un autre, une rupture pour tous, donc prend une dimension politique. La deuxième conséquence qu'elle tire de son analyse de l'événement, et ça je trouve ça très intéressant de sa part, par rapport à son positionnement justement à l'égard d'Heidegger, c'est que de la crise elle-même, de la crise entre pensée et politique, la philosophie n'est jamais totalement innocente. Et dans une lettre à Karl Jaspers de 1951, la lettre 109, à Jaspers du 4 mars 1951, elle dit quelque chose de très intéressant, je la cite. « Je soupçonne que la philosophie n'est pas entièrement innocente de ce bric-à-brac. » Ce bric-à-brac étant l'événement totalitaire. « Non pas bien sûr au sens où Hitler aurait à voir quoi que ce soit avec Platon, et entre parenthèses, elle indique, la raison primordiale pour laquelle je me suis donné tant de mal pour isoler les éléments des gouvernements totalitaires était de dégager la tradition occidentale de Platon jusqu'à Nietzsche inclus de toute suspicion. » Fin de la parenthèse, mais plutôt à l'inverse, au sens où la philosophie occidentale n'a jamais eu un concept clair de ce qui constitue le politique et ne pouvait pas en avoir, car par nécessité, elle parle de l'homme au singulier et n'a affaire avec le fait de la pluralité que tangentiellement. Phrase qui se trouve donc dans sa correspondance avec Jaspers, mais phrase qu'on trouve dans toute son œuvre et qui consiste à prendre position par rapport à la métaphysique en disant « La tradition métaphysique ne peut pas comprendre la politique c'est la pluralité. La politique est faite par les hommes, pour les hommes, et à partir du moment où on pense la politique d'un point de vue platonicien, on pense l'idée d'homme, on ne pense pas la pluralité des hommes. » Donc il y a une responsabilité de la philosophie à ne pas avoir su comprendre la politique. Troisième conséquence, troisième point de cette analyse, elle indique que l'événement totalitaire, comme elle l'appelle, serait tel que ces actions ont manifestement pulvérisé nos catégories politiques ainsi que nos critères de jugement moral. Autrement dit, ce sont l'événement et le phénomène que nous tentons et que nous devons nous efforcer de comprendre, qui nous ont précisément privés de nos outils de compréhension habituels. Donc, à mon avis, cette analyse est très intéressante parce qu'on voit que la philosophie n'est pas complètement innocente par rapport aux événements politiques de l'histoire qui se fait, hein, du cours des événements, parce que la tradition philosophique n'a pas su penser la politique, n'a pas su comprendre ce qu'était le politique. Mais par un effet de boucle, quand un événement rompt la tradition, quand il y a une brèche, nous n'avons plus non plus les catégories pour penser que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe réellement qui fait éclater en plus nos concepts. Donc, la grande idée d'Anna Arendt, c'est qu'il y a toute une tradition platonicienne, entre autres, hein, platonicienne, qui fait qu'il a été impossible de comprendre et la politique et l'action. La politique parce qu'on se rapportait à l'homme et non pas aux hommes, et l'action parce qu'on privilégiait le rapport à la mort plutôt que le rapport à la naissance. Alors je voudrais juste indiquer, pour ne pas trop abuser de mon temps de parole, que ce thème de la naissance qui est développé essentiellement au début de la condition de l'homme moderne apparaît à tous comme l'une des grandes originalités de la pensée d'Anna Arendt, et c'est ce que j'appelle procéder de façon oblique et complémentaire. Je trouve très intéressant le fait que Jürgen Habermas ait rendu un hommage très appuyé à Anna Arendt pour sortir de la philosophie politique dans sa réflexion sur les biosciences et ses conséquences sur la manière dont nous entendons mener nos vies et concevoir nos libertés. Habermas, dans l'essai sur l'avenir de la nature humaine, dont le sous-titre éloquent et inquiet n'est autre que « Vers un eugénisme libéral », défend la thèse selon laquelle, pour pouvoir être soi-même, toute personne doit, dans une certaine mesure, être chez elle dans son propre corps vivant, le corps étant à la fois le médium par lequel l'existence personnelle s'incarne et ce à quoi se rattache le sens directionnel de cette existence. Et il fait remarquer que le thème de la naissance est un thème qui a été très peu thématisé dans la philosophie moderne, et il dit que c'est l'une des grandes originalités d'Hannah Arendt que de l'avoir développée. Habermas explique en effet que la naissance, c'est un donné, dans la perspective où il n'y a pas d'eugénisme, où c'est une naissance naturelle, et c'est un donné qui peut être considéré en effet, comme le dit Hannah Arendt, comme un commencement pour l'action. Pour que la personne, dit-il, ne puisse ne faire qu'un avec son corps, il semble qu'il lui soit nécessaire de l'éprouver comme s'inscrivant dans la croissance naturelle, comme le prolongement de la vie organique se régénérant elle-même, dont la personne est issue par sa naissance. On vit sa propre liberté comme étant en relation à quelque chose dont il est naturel qu'on ne puisse pas disposer, à savoir la naissance. Fin de citation, c'est page 89 de Essai sur l'avenir de la nature humaine. La naissance dans sa naturalité conviendrait donc au rôle que l'on peut faire jouer conceptuellement à un tel point de départ. Un point de départ, un commencement pour l'action, un point de départ, c'est quelque chose dont on ne dispose pas et à partir duquel on construit quelque chose par soi-même. Et d'ajouter, c'est Habermas qui parle, c'est un aspect que la philosophie a rarement thématisé. Hannah Arendt appartient aux exceptions, puisque c'est elle qui introduit le concept de natalité dans le cadre de sa théorie de l'action. Alors que dit Hannah Arendt en effet ? Hannah Arendt part de l'observation suivante, qu'avec la naissance d'un enfant, quel qu'il soit, c'est non seulement l'histoire d'une autre vie qui commence, et ça c'est ce qui intéresse en effet Habermas, mais c'est aussi l'histoire d'une vie nouvelle, c'est l'histoire de quelque chose de nouveau. Et Hannah Arendt rattache ce commencement emphatique de la vie humaine à la compréhension qu'ont d'eux-mêmes des sujets agissants, des sujets qui se comprennent comme capables de créer de leur propre chef du nouveau, un nouveau commencement. Comme si la promesse biblique « un enfant est né » continuait de projeter son reflet eschatologique sur chaque naissance qui porte en elle l'espérance qu'un tout autre viendra briser la chaîne de l'éternel retour. Et sur cet espoir indéterminé que quelque chose de nouveau advienne, la puissance du passé sur l'avenir ne peut que se briser. Donc avec ce concept de natalité, il s'agit pour Arendt de jeter un pont entre ce qu'est le commencement d'une créature nouvelle et la conscience qu'a un sujet adulte de pouvoir lui-même initier le commencement de nouvelles chaînes d'action. Je cite Hannah Arendt, « Le commencement nouveau qui se produit dans le monde à chaque naissance ne peut prendre vigueur en ce monde que parce qu'il revient au nouveau venu de créer lui-même un nouveau commencement, c'est-à-dire d'agir. Dans le sens d'initiative, poser un initium, réside un élément de l'agir présent dans toutes les activités humaines qui ne dit pas autre chose que ceci. Ces activités sont exercées par des êtres qui sont venus au monde par naissance et qui se trouvent conditionnés par la natalité. » Alors, Habermas reprend ce début, ce chapitre 1 de la condition de l'homme moderne, et le comprend de la façon suivante. Avec la naissance, une différenciation s'instaure entre ce qui est lié à la socialisation de la personne, ce que l'on fait, ce que l'on décide, ce que l'on construit, et d'autre part, le destin naturel de son organisme. Autrement dit, il y a des points de départ dont on ne peut disposer, et il y a aussi une plasticité des pratiques historiques. Et renvoyer à cette différence semble être le seul moyen qui permette à celui qui agit de se soumettre performativement à ses propres assignations, sans lesquelles il ne pourrait pas se comprendre lui-même comme l'initiateur de ses actions et de ses exigences. Donc Habermas reprend un thème politique en réfléchissant à ce que pourrait être un eugénisme libéral et en disant que le caractère indisponible du destin naturel qui appartient pour ainsi dire à un passé antérieur au passé, paraît essentiel à la conscience de la liberté et à la conscience de pouvoir faire du neuf dans une société donnée, de pouvoir agir à nouveau frais, politiquement et moralement. C'est en effet une idée qu'il reprend à Hannah Arendt, puisque page 66 de l'édition Quarto, elle dit la chose suivante. C'est l'action qui est le plus étroitement liée à la condition humaine de natalité. le commencement inhérent à la naissance, ne peut se faire sentir dans le monde que parce que le nouveau venu possède la faculté d'entreprendre du neuf, c'est-à-dire d'agir. En ce sens d'initiative, un élément d'action et donc de natalité est inhérent à toutes les activités humaines. De plus, l'action étant l'activité politique par excellence, la natalité, par opposition à la mortalité, est sans doute la catégorie centrale de la pensée politique, par opposition à la pensée métaphysique. Voilà, je voulais terminer par cette phrase que je trouve absolument fondamentale pour se repérer, peut-être pour ouvrir une discussion sur ce qui me semble pas du tout en effet si simple qu'on le dit souvent, les rapports compliqués d'Hannah Arendt à la pensée d'Heidegger. Je trouve personnellement très intéressant philosophiquement ce basculement de la mortalité dans la natalité. C'est vraiment une façon de penser le rapport à la philosophie qui réellement inscrit la philosophie dans une philosophie de l'action et renonce à tout ce qui était un héritage platonicien et métaphysique qui avait abouti chez Heidegger à une espèce de focalisation sur l'être pour la mort. Donc assurément, quel que soit l'héritage heideggerien chez Arendt, dont Arendt ne veut pas, ne veut plus, et elle, de ce point de vue-là, elle pense en effet à nouveau frais. Et je voulais juste indiquer qu'un penseur comme Hannah Arendt, qui est un penseur essentiellement politique, a en fait trouvé un prolongement dans la réflexion qu'a menée Habermas sur la bioéthique, un prolongement que je trouve personnellement très intéressant. Voilà.